Françoise de Sertine, bonjour. Vous inaugurez notre nouveau podcast, dont on va essayer de lui trouver un nom d'ailleurs. Et vous êtes présidente de la Banque alimentaire de l'Isère depuis avril 2023. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quel contexte vous êtes arrivée à la tête de cette Banque alimentaire de l'Isère ?
Alors, le contexte était déjà assez mouvementé parce que la Banque alimentaire de l'Isère a dû faire face les 3 années précédentes à un certain nombre d'événements, pour certains qui ont été partagés par tous et pour d'autres qui ont impacté uniquement la Banque de l'Isère. Alors, je pense notamment à la crise Covid qui a bouleversé notre pays et énormément de domaines. Et évidemment qu'il y a beaucoup secoué l'aide alimentaire parce qu'il y a eu des afflux de population supplémentaires. Un modèle de la banque alimentaire qui était totalement bouleversé puisque nous fonctionnons avec un système de ramasse dans les grandes surfaces qui ont été fermées pendant plusieurs mois. Donc il fallait trouver d'autres sources d'approvisionnement. Donc ça a énormément perturbé le fonctionnement de la banque alimentaire. Parallèlement à ça, notre directeur, Sylvain Géry, qui est directeur de la Banque alimentaire depuis une vingtaine d'années, est tombé gravement malade et a été absent pendant 18 mois. Vous imaginez bien que cette cheville ouvrière du fonctionnement quotidien de la banque, en plus déjà dans une période impactée par une crise sanitaire, ça a été un grand bouleversement. La réaction des bénévoles a été formidable puisque ça a été une réaction de solidarité et d'implication et de dire eh ben, à plusieurs, on va se faire confiance et on va relever ce défi de tourner sans directeur. Combien ? Ça a duré 18 mois.
D'accord. Combien de bénévoles sont mobilisés autour de vous ?
Alors, il y a 180 bénévoles à la Banque de l'Isère. Et donc, il y a eu un troisième événement qui a énormément secoué la banque. Ça a été le décès brutal de son président en 2021. Et donc, ces trois événements se sont empilés, ont provoqué une succession de chocs difficiles à amortir pour les bénévoles, difficiles à amortir pour tout le monde. Et moi, je suis arrivée dans une année de transition où Bernard Péri, ancien président, avait accepté de revenir, mais tout à fait temporairement, pour quand même piloter le paquebot, parce que la Banque alimentaire de l'Isère, c'est un paquebot. Mais un petit peu dans l'impatience de trouver quelqu'un pour lui succéder.
Combien la Banque alimentaire, en quelques chiffres, vous parlez justement que c'est un paquebot, décrivez-nous un peu... Combien de personnes y travaillent en tant que salariés ? Vous avez parlé des bénévoles, mais peut-être aussi des partenaires. Une photographie en quelques chiffres clés.
Alors, quelques chiffres clés. En 2022, ce sont 2500 tonnes de denrées qui ont été distribuées via 98 associations partenaires réparties sur l'ensemble du territoire de l'Isère, ce qui est très important parce que c'est un département géographiquement avec une surface importante.
Partenaires, c'est les bénéficiaires, hein, c'est ça, c'est
non,
ceux qui reçoivent.
Ce sont les associations. Si vous voulez, nous, on ne travaille pas en direct avec les bénéficiaires. Mmh. On travaille avec des associations qui, elles, adressent les bénéficiaires.
Comme
donc
les CCAS.
On a 98 associations ou CCAS, il y a 19 CCAS. Donc je vous laisse faire le calcul et la soustraction, qui travaillent en relais et qui, elles, eux et elles, adressent en direct les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc en 2022, on était à 2500 tonnes, 98 associations partenaires. On était à peu près à 8000 bénéficiaires semaine en début d'année 2023. On est passé à 10 000 bénéficiaires semaine au mois de juin, là, 2023. Donc, une augmentation énorme du nombre de bénéficiaires qui avait déjà été multiplié par 2 entre 2019 et 2022. Donc, ce sont des chocs et des empilements successifs de l'augmentation des populations qui sont concernées par l'aide alimentaire qui font que ça nous cause des difficultés, évidemment, d'approvisionnement, en particulier pour rester dans une alimentation équilibrée et un colis équilibré avec des fruits et légumes, des laitages, des produits frais. On y reviendra probablement un peu plus tard. On avait constaté fin 2022 qu'il manquait 200 tonnes de fruits et légumes pour équilibrer le colis. Alors, en n'étant même pas sur les préconisations de la loi Egalim, hein, qui est à 32%, en étant à 25%, on n'y arrivait pas. Il nous manquait 200 tonnes. Donc, dès le début de l'année 2023, on s'est mis en ordre de marche, en sollicitant du mécénat, en sollicitant du financement public, pour acheter en circuit court des fruits et légumes pour rétablir cet équilibre alimentaire, ce qui nous paraissait extrêmement important,
qui est crucial. Très important pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, il faut nourrir, mais en plus nourrir, qualitativement.
Il faut nourrir qualitativement, ça me paraît essentiel. Je veux dire, dans nos augmentations de bénéficiaires, on a des étudiants, on a énormément de familles monoparentales avec énormément d'enfants. On sait très bien qu'on a des problèmes de santé publique qui vont croissant également. On sait très bien que les critères d'obésité, de diabète, c'est déterminé chez le jeune enfant jusqu'à 6 ans, oui. Donc, on ne peut pas à la fois faire un constat de sujets de santé publique qui deviennent énormes, et puis dire, ça nous est égal, on continue, on fait comme on peut, on donne des brioches pasquées au lieu de donner des pommes, parce que l'industrie agroalimentaire est plus généreuse que nos capacités à récupérer dans les grandes surfaces des produits frais. Enfin, personnellement, c'est un raisonnement que je ne peux pas tenir. Ça ne me paraît pas. Enfin, on a quand même des valeurs morales, des valeurs, des valeurs éthiques, qui font que on ne peut pas concevoir d'approvisionner des personnes qui doivent avoir recours à l'aide alimentaire sans prendre en compte le fait qu'il y a un équilibre alimentaire à respecter, sans parler de la question qui est extrêmement importante du choix de ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aide alimentaire, elle laisse un espace très mince au choix pour la personne qui est bénéficiaire. Alors, on fait aussi des efforts pour essayer de répondre à cette question-là. Parce que c'est une question qui est absolument cruciale. Et l'arrivée de nouvelles populations dans l'aide alimentaire fait que cette question, effectivement, elle devient de plus en plus essentielle.
Vous aviez parlé de nouvelles populations. J'ai entendu les étudiants, les familles monoparentales. Est-ce que ce sont vous avez vécu les plus fortes augmentations,
ces dernières années ? Les très fortes augmentations. Alors, on a des travailleurs. Mmh. Aujourd'hui, on arrive à 20% de gens qui ont un CDI. C'est absolument, moi ça me paraît invraisemblable. Mais voilà. Il y a une étude profil qui est réalisée par les banques alimentaires au niveau national avec un grand institut de sondage tous les deux ans. Et donc on a eu le résultat de l'étude 2022. Ça a été réajusté en début d'année. D'accord. Vous verrez là, c'était 17% de travailleurs. Mmh. C'est monté à 20%, avec les nouveaux chiffres.
Comment expliquez-vous cette explosion ? Comment la vivez-vous ? Parce que vous êtes au cœur de grands enjeux, en fait, de grands enjeux, finalement, de nutrition, voire même de survie de certaines populations. Donc vous avez un rôle social et sociétal très fort. Comment vous le vivez, en fait, vous, en tant que présidente ? Et puis même, je dirais, globalement, comme structure banque alimentaire.
Alors, globalement, j'irais dire que c'est à la fois extrêmement stimulant, parce que c'est des tas de défis, effectivement, sociétaux à relever. Et je crois que c'est ça qui nourrit les bénévoles qui acceptent de passer leur journée ici et qui s'investissent beaucoup. C'est qu'on est au cœur d'un sujet essentiel, l'alimentation. Si vous voulez, on peut parler de retour à l'emploi, des personnes précaires, on peut parler d'un tas de choses. Mais si on ne mange pas à sa faim, si on ne peut pas nourrir correctement ses enfants, le cerveau est complètement absorbé par ça. Et on le voit bien, les personnes qui adressent l'aide alimentaire, elles le disent toutes, elles disent « Nous, notre priorité, c'est de garder notre logement. » Parce qu'on sait que si on perd aussi notre logement, là, c'est fini. C'est une dégringolade, une spirale. Voilà. Donc, l'aide alimentaire, personne n'a recours à l'aide alimentaire de gaieté de cœur. Ça, il faut déjà tordre le cou à cette idée-là, si vous voulez. Les gens n'abusent pas de l'aide alimentaire. Ça n'a pas de sens. Et en même temps, l'aide alimentaire, elle répond à un besoin premier qui est se nourrir et auquel on essaye de répondre non seulement en nourrissant, mais en nourrissant bien, le mieux possible, parce que bien, on a encore des marges de progrès, mais le mieux possible, de façon la plus équilibrée possible, et en préservant absolument la dignité des personnes qui aujourd'hui sont obligées d'avoir recours à l'aide alimentaire.
Dernière question pour conclure. Est-ce que vous attendiez, en prenant cette responsabilité à faire face à ce type de problème, et peut-être nous dire un peu aussi d'où vous venez, et comment vous vous projetez dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années?
Alors, je savais qu'il y avait de quoi s'occuper, mais en 6 mois, les choses se sont encore complètement, ont à nouveau basculé dans une nouvelle dimension. Et la grosse difficulté à laquelle on doit faire face aujourd'hui collectivement, c'est que on met en place un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses pour arriver à faire au mieux. Et on a une déferlante qui nous anéantit ce qu'on a mis en place. Si je reprends l'exemple des fruits et légumes, on a pu, dès le mois de mars, acheter 2 tonnes par semaine de fruits et légumes entre mars et juin. Jusqu'au mois de juin, je n'avais pas d'assurance de certains financements. Donc j'avais dit aux équipes, vous faites 2 tonnes par semaine, pas plus, parce que je sais que je pourrais payer ça, mais je ne sais pas si je pourrais payer plus. Quand on a fait les statistiques du premier semestre, on s'est aperçu qu'on avait perdu 2 tonnes par semaine de fruits et légumes en ramasse grande surface. Ça veut dire plus de tonnes, moins de tonnes. Ça veut dire que l'effort qu'on avait fait pour améliorer l'équilibre, il avait été anéanti par un monde qui est en train de basculer. Et un changement de paradigme, et un changement de comportements divers, dus à divers impacts, loi Garot, etc., que vous connaissez.
Vous pouvez le préciser pour...
La loi Garot, c'est la loi... Voilà, alors la loi Garot, c'est la loi qui a organisé la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui est une très belle idée, très vertueuse. Mais en organisant la lutte contre le gaspillage alimentaire, on a ouvert le champ à des entreprises marchandes qui organisent ça, notamment, au détriment d'associations comme la nôtre, qui, depuis 40 ans, arrivaient à nourrir des personnes précaires grâce à cette lutte contre le gaspillage alimentaire.
D'accord. Voilà. Une forme de concurrence, finalement, qui s'est instaurée... par la loi, ou en tout cas,
changement du paysage, quoi. En tout cas, ça a totalement réorganisé le paysage, en tout cas. Et comme nous, on était quand même un acteur très présent dans le paysage, ça nous a énormément bousculé. Après, il y a l'inflation, je veux dire, ça a un impact, mais monstrueux. On le voit tous quand on fait nos courses, et nous, on a les moyens de faire nos courses. Donc, vous imaginez, une femme seule qui travaille, parce que beaucoup de femmes sont sur des métiers avec des temps partiels subis. Donc, elles ont quoi ? 800, 900 euros de revenus mensuels. Ce sont toutes les femmes qui travaillent en service auprès de la personne, auprès des personnes âgées. Ce sont les ADSEM dans les écoles maternelles. Ce sont les hôtesses de caisse dans la grande distribution. Ce sont toutes ces femmes-là. Elles se retrouvent avec un revenu de 800 ou 900 euros par mois, avec une charge en étant seule de 2 enfants. À votre avis, elles font comment? C'est impossible.
C'est compliqué.
Et elles travaillent.
S'il y avait un souvenir là, depuis votre prise de fonction, quelque chose qui vous a le plus marqué?
Oh, j'ai quelque chose qui m'a déchiré le cœur. Déchiré le cœur. L'équipe précédente une école des quartiers sud de Grenoble était entrée en contact avec l'équipe précédente parce que dans son projet pédagogique, il y avait l'alimentation. Et donc on a repris le projet et on a organisé dans cette école des petits déjeuners. Donc on a fait ça 3 matins de suite parce qu'il y avait 180 enfants dans l'école, donc on faisait 60 enfants par matin. On proposait aux parents des familles de venir s'ils le souhaitaient, fait qu'ils étaient bienvenus avec leurs enfants. Et avec la diététicienne, on a mis au point un petit déjeuner équilibré avec au choix des céréales, des tartines, enfin du pain, du beurre, du miel, des confitures qui sont fabriquées ici dans notre atelier de transformation, du fromage et des pommes. Qu'on avait coupé en quatre pour que ça fasse un fruit et du lait. Et on avait fait chauffer du lait, donc on proposait du lait ou tiède ou froid. Donc moi je suis allée dans cette école 3 matins de suite et en fait ces enfants, très clairement, le matin ils n'ont pas de quoi manger. Et très clairement ils n'ont pas de quoi manger parce que les parents. Le petit déjeuner, ils ne peuvent pas acheter un petit déjeuner en plus des autres repas. Donc c'est un repas qui est sauté. Voilà. Et les parents eux-mêmes étaient extrêmement émouvants parce qu'on a eu entre 15 et 20 parents par session, ce qui était pas mal, des hommes, des femmes. Donc les papas, on était vraiment très contents de les avoir aussi. Ils étaient très 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 émouvants parce que ils nous ont remerciés de donner à manger à leurs enfants, en nous expliquant à demi-mot que eux, ils étaient très mal à l'aise avec ça, mais qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Donc nous, on a travaillé aussi avec l'association qui travaille dans ce quartier-là, mais qui est une association qui est absolument débordée, qui fait ce qu'elle peut.
C'est laquelle?
C'est Madame Rutabaga. C'était l'école des Genêts. Donc Madame Rutabaga, ils ne font pas que de l'aide alimentaire, ils font aussi de l'accompagnement des personnes, etc. Donc l'aide alimentaire, ils l'assurent un peu comme ils peuvent, les pauvres. Donc on a quand même essayé de travailler avec eux pour les fournir en denrées, pour qu'il puisse y avoir une suite à ça. Et puis, je pense qu'il y aura une suite parce que les instituteurs, ils n'avaient jamais vu les enfants aussi calmes, aussi attentifs. Jamais. Les enfants, ils sont restés plus d'une heure à table sans bouger. La directrice de l'école, elle n'en revenait pas. Donc, bon, voilà.
Très bien.
C'est terrible.
C'est terrible.
C'est terrible. C'est des constats terribles derrière
Terrible.
tout ça.
Alors, pour essayer de conclure sur une note positive, vous auriez une baguette magique et une formule magique. Vous l'appliquez sur la banque alimentaire. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous feriez là, si vous pouviez, si vous aviez carte blanche sur tout? Ce
Alors, le
serait quoi?
rêve, ce serait que la banque alimentaire n'existe plus. Ça voudrait dire que chacun mange à sa faim et a les moyens de pouvoir acheter de quoi se nourrir. C'est terrible de ne pas pouvoir acheter de quoi se nourrir. Donc le rêve, ce serait ça, évidemment. Évidemment. Aujourd'hui, la baguette magique, bah, écoutez, on essaye de multiplier les actions pour être le plus possible, bon, arriver à nourrir les gens le mieux possible. Donc avoir en quantité de denrées, parce qu'aujourd'hui 60 tonnes, bah aujourd'hui on est à 60 tonnes par semaine. Aujourd'hui on n'y arrive pas. Je vous le dis franchement. Aujourd'hui 60 tonnes, on n'y arrive pas. Donc on est plus près de 55. Donc on voit avec le directeur pour arriver à s'approvisionner, pour arriver à remonter au juste tonnage par rapport au nombre de bénéficiaires qu'on adresse aujourd'hui. Donc c'est arrivé en quantité et en qualité et en respectant la dignité des personnes. Voilà, la baguette magique, c'est ça.
D'accord. Je vous remercie, Françoise de Sertine, pour cet entretien.
Merci à vous.